On partage quelques versets dans l'Écriture ensemble. Et on va revenir sur la vie d'un homme. Il s'appelle Mardochée, on le connaît plus ou moins. On connaît plutôt sa cousine, puisqu'elle sera reine, c'est la reine Esther. Mais je me suis arrêté sur Mardochée, et vous comprendrez certainement au fur et à mesure de cette méditation, le titre que j'y ai mis, « Le miroir et la fenêtre ». Mais on va lire quelques textes pour commencer ainsi notre méditation dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, nous lirons à partir du verset 5. Esther, chapitre 2, verset 5, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte afin de mieux appréhender ce qui va suivre. Donc Esther, chapitre 2, verset 5. Livre d'Esther, chapitre 2, verset 5. « Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. » Chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14. « Zeresh, sa femme, la femme d'Aman, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras, joyeux, au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. » Chapitre 6. Enfin, verset 10. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen. Alors on va revenir quelques instants sur tout ce qui s'est passé dans le livre d'Esther et principalement le rôle qu'a joué Mardochée. On pense souvent à Esther, bien évidemment, quand on parle de son livre, et c'est bien normal, puisqu'elle est une clé, elle est, pour ainsi dire, le personnage essentiel dans ce livre. Néanmoins, qui aurait connu Esther si Mardochée n'avait pas été là? Peut-être personne. On n'aurait peut-être jamais entendu parler d'elle. Elle n'aurait jamais été reine, certainement, si Mardochée n'avait pas été dans l'entourage d'Esther. Qui exerça, c'est une autre question, la plus grande influence à cette époque-là? J'ai ma petite idée sur la question et je pense que c'est Mardochée, bien plus qu'Esther. Et Mardochée sera tantôt miroir, tantôt fenêtre. Je m'explique. Quand vous prenez un miroir, le miroir fait quoi? Il réfléchit une image, il renvoie une image, il réfléchit la lumière, bref, vous ne voyez pas au travers. Il renvoie une image. Tandis qu'une fenêtre, ça vous permet de voir au travers. Donc avec un miroir, vous réfléchissez une image, et avec une fenêtre, vous voyez plus loin. Si, bon, il y a des fenêtres en haut, mais elles sont un petit peu fermées, mais si elles étaient en verre transparent, on pourrait voir les arbres derrière, on pourrait voir les quelques immeubles au fond, tandis qu'en regardant à travers le mur, on ne verrait rien. Donc la fenêtre permet de voir un petit peu plus loin. Et on voit que Mardoché, tantôt par sa vie, par ses attitudes, par ses réactions, tantôt il va réfléchir la lumière et tantôt il va permettre de regarder un petit peu au-delà et de regarder plus loin, de regarder l'avenir. C'est comme une forme de providence, si vous voulez, être capable de porter un regard plus loin, en avance sur les autres, en avance sur son temps. J'en reviens à Mardoché, parce que Mardoché, ça fait suite un petit peu à ce que l'on a vu la semaine dernière quand même. Mardoché va transmettre un héritage aux générations futures. Il va transmettre un héritage à ses contemporains, à sa cousine, notamment Esther. Et puis il va transmettre évidemment un héritage à toute sa génération, tout son peuple, le peuple d'Israël. Finalement, il n'a rien fait d'extraordinaire, c'est ce qu'on va voir ensemble. On ne peut pas dire qu'il ait été un homme hors norme. Il a été normal. C'est déjà être hors norme aujourd'hui que d'être normal. Donc il a été quand même assez normal. Il était pas bête, vous allez le voir. Il a vécu une vie très intéressante et j'ai envie de dire qu'il fera ce qu'on attendait de lui. Quand il décide de récupérer sa cousine, qui était beaucoup plus jeune que lui, de l'élever un petit peu comme sa fille, puisqu'il l'a adoptée à la mort des parents de cette jeune fille Esther, on comprend qu'il veut jouer un rôle. Et pour lui, c'est tout à fait normal de le faire et il ne fait rien d'autre que ce qu'on attend de lui. À l'époque, aujourd'hui encore d'ailleurs, on a connu comme ça une famille où un jeune enfant s'est retrouvé orphelin, d'abord de père et puis ensuite de mère, et qui l'a récupéré, c'est son oncle. Son oncle et sa tante ont récupéré l'enfant et ils l'ont élevé, c'était dans les années 90, hein, c'est pas si vieux. Et grâce à ça, l'enfant a eu une bonne éducation et il a pu grandir dans un foyer stable. Et c'est un beau jeune homme maintenant qui, à son tour, est papa. Et la vie continue. Mais il a été encadré, il a été préservé malgré tout. Le fait est que Mardoché va marquer de son empreinte cette époque. J'étais très étonné quand je pense à l'intervention de cet homme à cette époque-là qui a bougé, qui a bouleversé tout l'environnement, si vous voulez. Ça m'a fait penser à quelques grands hommes ou grandes femmes, si vous voulez, scientifiques, politiques, intellectuels, sportifs, qui ont marqué leur génération. Je me souviens de cet homme qui a, je crois, plus d'une cinquantaine d'années maintenant, un basketteur qui s'appelait Michael Jordan. Tous les basketteurs connaissent Michael Jordan. Il a même été mis en dessin animé hein, à une époque. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est arrivé dans une équipe, les Chicago Bulls, à partir du jour où il a joué dans cette équipe a tout gagné. Et pendant des années, à un moment donné, il a levé le pied, il a arrêté, et l'équipe ne gagnait plus. Et il est revenu, et l'équipe a regagné encore. Un homme, pourtant dans une équipe de basket, il n'y en a pas qu'un quand même, hein. Mais un homme a suffi pour faire cela. Il y a d'autres grands sportifs qui ont joué dans des sports collectifs. Leur seule présence a changé quelque chose pendant des années. Il suffit qu'ils ne soient plus là, et puis ça revient le train-train, en fait. Ça redevient comme avant, et c'est beaucoup plus difficile de gagner. Vous avez des personnes qui ont marqué de leur empreinte une époque, un club, une ville, un pays, c'est une évidence. Mardoché va marquer de son empreinte. Et on comprend qu'à eux seuls, ces personnalités à part ont bousculé quelquefois le destin, je le disais, d'un pays, le destin d'une ville, le destin de ceux qui les côtoyaient. Et je me dis dans le fond que chacun d'entre nous, nous devrions ressembler à Mardoché aussi, parce que nous avons un héritage, on le disait la semaine dernière, un héritage extraordinaire. l'héritage de l'Évangile, l'héritage de la grâce, l'héritage de la miséricorde de Dieu que nous avons expérimenté. Alors j'en reviens à Mardochée au travers de différents textes bibliques et ça va être assez simple ce que nous allons partager. Je vois en Mardochée un homme attentionné. Nous l'avons lu tout à l'heure dans ce chapitre 2 au verset 5, il est rappelé quelle va être son attitude et comment il va s'occuper de cette jeune fille. Il va prendre soin d'elle. Je note également, c'est le deuxième texte que j'ai choisi, qu'à cette époque-là, pour tout vous remettre dans le contexte, le roi a désavoué sa reine, donc il se retrouve sans reine. Et il a un petit peu le blues après, on va dire, l'euphorie et l'excitation de ses choix. Il se sent un petit peu accablé. Alors on va lancer un appel dans toutes les provinces, 120 provinces, 127 provinces, un pays immense. Et on va lancer cet appel, récupérer, trouver des jeunes filles belles, très très belles, et amenez-les dans la capitale, à Suse. Et puis, on fera une sélection et on prendra les plus belles d'entre elles et on les présentera au roi. Il faut que le roi trouve une reine. Donc, on a choisi dans le pays toutes celles qui étaient les plus belles. Et de façon très surprenante, on a choisi Esther. Vous avez noté que tout à l'heure, on a bien signalé qu'elle était belle. Elle était belle. Donc forcément, elle n'est pas passée inaperçue, on l'a choisie. Je note que quand elle a été choisie, ça pouvait être une inquiétude quand même pour son cousin, hein, de se dire, ils vont l'emmener, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Elle était bien jeune, comme toutes les jeunes filles que l'on a choisies à ce moment-là. Elle était évidemment encore célibataire, pas mariée, donc elle allait entrer dans un autre monde, elle allait entrer dans un autre univers. Allait-elle être choisie ou pas? À l'époque, on ne prenait pas trop de gants, hein. C'est-à-dire que toutes celles qui étaient choisies, le roi allait coucher avec chacune d'entre elles au moins une fois. Si ça lui a plu, il la garde comme reine. Si ça lui a pas plu, elle part dans le harem et voilà ce que sera sa vie, quoi. Donc c'est assez désolant quand on y pense. Il n'y avait pas un avenir qui était très heureux, à moins d'être l'élu, à moins d'être celle qui sera choisie. Mais une parmi combien? Une parmi des dizaines, pour au bas mot. Donc, il y a de quoi être quand même inquiété. Et on comprend l'attention de Mardochée. Et Mardochée reste pas loin d'Esther. Chaque jour, il allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment la traiter. Je trouve un homme attentionné. Je trouve quelqu'un qui se fait du souci. C'est pas parce qu'il n'a plus à la maison en disant « tant mieux, une bouche de moins à nourrir ». Non, mais il a du souci quand même. Parce qu'il l'a élevée, parce qu'il l'a adoptée comme sa fille, parce que pour lui ça compte. Alors il veut veiller sur elle, il veut la protéger, il veut la surveiller. D'une certaine façon, il l'avait modelée, il est en train de la façonner. C'est le point suivant qui nous le dira. Il est en souci permanent et il restera pour elle la référence. Pourquoi? Parce que tous les jours, il vient prendre des nouvelles. Quand bien même un jour, elle se laisserait aller au luxe, au privilège qu'elle a, vous le relirez un petit peu en quelles conditions elle va être gardée à part. Et vous verrez que cette préparation durait un an avant d'aller devant le roi. Donc si vous êtes choisi la première, ça va. Si vous êtes choisi la dixième, ça mettra évidemment un petit peu plus de temps, mais un an à chacune, on les a rassemblés et après la sélection va se faire. Donc la première revient, vous dites le lendemain c'est mon tour ou c'est le tour de la suivante. Et comment ça s'est passé? Ben je sais pas, il m'a rien dit. Hop, on passait de cet endroit-là dans la chambre du roi et après de la chambre du roi dans une autre, dans d'autres appartements. Donc c'est parti pour durer certainement. Alors on voit un homme qui s'inquiète. Je parlerai précisément à ce moment-là d'un effet miroir. Dans ce sens que cette jeune femme va se retrouver, certains diraient, dans un conte de fées, hein, littéralement, mais elle perd ses repères quand même. Elle perd ses repères. Et je crois qu'elle avait certainement encore besoin de repères. D'ailleurs, est-ce que toute notre vie, on n'a pas besoin de repères? Certainement. On a besoin de repères, on a besoin de pouvoir fixer des limites. C'est un petit peu comme un sonar, le son part, il faut qu'il revienne, qu'on sache où est le terme, jusqu'où ça va. Donc là, quelque part, elle a besoin d'une référence. Je me dis que c'est certainement un réconfort pour elle de savoir, tiens, en fait, ton cousin nous a demandé comment tu allais aujourd'hui. Ah, il est toujours là. Ah, il est toujours là. Sa référence, sa sécurité, il n'est jamais loin. Mardoché, évidemment, il n'est plus là, mais il n'est quand même pas loin. Je reste persuadé, frères et sœurs, que dans la vie chrétienne et dans notre vie d'église même, on a besoin de références. On a besoin de frères et sœurs qui nous tiennent lieu de référence. On peut avoir à l'esprit des frères et sœurs sur qui on peut compter, avec qui on partage beaucoup de choses. On ne peut peut-être pas partager avec tout le monde, mais on veut partager avec pas mal, avec plusieurs, etc. Mais quelque part, c'est toujours important d'avoir une référence, de se dire, tiens, quand je pense à tel frère, ça m'encourage dans mon épreuve. Quand je sais ce que lui a passé, ce qu'elle, elle a connu, ce qu'elle, elle a partagé un jour avec moi, ça m'encourage aujourd'hui à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. J'ai une référence, c'est comme un effet miroir. Il suffit que je vois ce frère, cette sœur, ça me renvoie une image, non pas la mienne, qui est désolé en ce moment, qui va pas bien, qui a besoin d'être fortifié, mais ça me renvoie une image de quelqu'un de fort et de solide. Et ça m'encourage. Je me dis que Mardoché tient son rôle. Il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas abandonné. Il reste près d'elle, il veut rester près d'elle. Et puis, c'est un homme qui est sage et c'est un homme qui est intelligent. Allez savoir pourquoi. Par deux fois, au chapitre 2, vous avez ces références. Et il nous est dit que Esther ne fit pas connaître ni son peuple ni sa naissance. Elle ne dira pas qu'elle est juive, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Une deuxième fois, un peu plus loin, au verset 20, elle est toujours dans le... Elle a été choisie, elle a été emmenée dans le palais. Il ne vit plus avec elle. Donc, elle est partie. Mais avant de partir, la recommandation. Et il a insisté là-dessus. Ne dis pas d'où tu viens, ne dis pas quelle est ta race, ne dis pas que tu es juive. Deuxièmement, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Je me suis posé la question, pourquoi ce secret? Pourquoi ce secret? Mais quand vous connaissez la suite de l'histoire, vous vous rendez compte que c'était certainement une intuition, pour ne pas dire une révélation. Il valait mieux ne pas le faire connaître. La suite de l'histoire nous dit que quelque temps plus tard, un homme va se lever et deviendra le bras droit, le numéro 2 du roi, et va mener un projet machiavélique terrible. Il va ordonner le génocide du peuple juif dans toutes les provinces, dans tout l'Empire. Et le roi va être d'accord. Imaginez donc, si on avait su que cette jeune femme, cette jeune fille était juive également, aurait-elle été choisie? Peut-être pas. Et qui aurait pu préserver le peuple? Certainement personne, de ce génocide effrayant. Une forme d'intuition dans le cœur de Mardoché. Il a insisté, tu n'en parles pas, je ne veux pas que tu le dises. Elle aurait très bien pu dire, mais c'est pas grave, j'ai été choisie. L'une vient de ces provinces bien, bien éloignées, bien reculées. Il va me poser la question. Il va me dire, mais qui était ton père? Qui est ta mère? D'où viens-tu? Qui es-tu? Tu ne dis rien, tu ne dis rien. C'était intelligent, assurément. C'était très sage. Je me dis que Mardoché sera un homme influent et il aura de l'influence sur le caractère d'Esther. Parce que vous avez remarqué qu'au verset 20, il est bien précisé qu'elle suivait ses ordres aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. On ne dira jamais assez à ceux qui nous entourent, de notre famille ou pas, en tous les cas de notre famille spirituelle, à nos frères et sœurs. On ne dira jamais assez quelques conseils, quelques encouragements pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. C'est jamais trop, hein. C'est jamais trop. Quelquefois, on ne veut pas paraître trop excessif et on ne dirait rien. Mais souvenez-vous quand même de ce verset du livre des Proverbes. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Finalement, Mardoché reste un modèle. Et celui qui va donner envie à Esther, elle voudra lui plaire. Frères et sœurs, que ce soit la même chose pour nous et qu'on puisse toujours donner envie et que les autres, en nous voyant, puissent avoir cette impression d'un homme, d'une femme sage, sage et intelligente, un effet miroir, à nouveau un effet miroir. Maintenant, Mardoché, c'est un homme qui est droit. Et je lis pour vous ces quelques versets. Alors, tout n'est pas noté à l'écran. Si vous avez vos Bibles, on peut lire cela. Chapitre 2, verset 21. C'est comme ça que les ennuis vont commencer. Mais c'est un homme qui est droit avant cela. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point, mais les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché : Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. C'est assez étonnant ce qui est en train de se passer là. Parce que d'un côté, Mardoché va défendre, vous avez vu, hein, il va défendre le roi Assuérus. Il entend dire que deux hommes sont en train de monter un complot pour tuer le roi. Dès qu'il entend ça, parce que je vous rappelle qu'il a établi sa deuxième maison à la porte du palais, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a sa cousine et il en prend soin et il veut savoir si elle va bien. Il essaye de dicter un petit peu sa réflexion, tout du moins sa conduite. Donc il a l'œil sur elle malgré tout. Et il entend dire que certains s'agitent, certains s'agacent, s'énervent. Et voilà, ben ça va vite, hein, on va monter un complot, on va faire un attentat et on va tuer le roi. Dès qu'il entend cela, il veut sauver la vie du roi. Ça m'a surpris, parce que le roi, c'est qui pour lui ? Personne. Hein ? Je vous rappelle qu'il n'est qu'un déporté parmi tant d'autres. Hein ? Eh oui, ce sont des déportés. Hein ? Ils ne vivent pas chez eux. Hein ? Et il ne faut pas oublier que si ce n'est pas lui, c'est certainement un de ses prédécesseurs. Et finalement, on est arrivé un jour en Palestine, en Israël, en Juda, et on a déporté. Nébuchadnezzar a fait un massacre. Il a tué les Juifs, il les a déportés, il a détruit le temple et on a emmené tout le monde en captivité. Et lui, ben, survit de cette histoire passée quand même. Donc on n'est pas heureux tout de même. Vous êtes chez l'occupant, vous êtes occupé, vous êtes malmené. Et pourtant, il va défendre ce roi. Mais ce roi, c'est rien pour lui. Mais il le défend. Et je pense qu'il le défend parce que tout simplement, c'est un homme qui est droit. C'est un homme qui est droit. Ça me rappelle deux passages que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et ça nous concerne, nous, évidemment, chrétiens. Dans l'épître de Tite, je vous le lis, il est dit au chapitre 3 et au verset 1er, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, et d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Si ça ne vous plaît pas, ben ce n'est pas grave, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Dieu qui vous le dit, donc il faut que ça vous plaise. Hein. Et puis, dans la première épître de Pierre, ça fait un peu résonance tout de même, au chapitre 2 et au verset 13, il est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Certainement qu'il l'avait dans son cœur, cette vérité-là, Mardoché. Alors quand c'est comme ça, et quand il apprend qu'on va tuer le roi, ben il n'est pas d'accord. Donc il faut prévenir le roi. Alors les deux gars qui voulaient tuer le roi, on va vérifier la chose. Et dès qu'on a vérifié la chose, on les a exécutés. Il y a eu des morts quand même, mais en tous les cas, lui estime avoir joué son rôle. Quelque part, il a refusé de corrompre son cœur. C'était plus facile pour lui de dire « ça ne me regarde pas, j'ai rien entendu, c'est son problème ». Voilà, j'ai pas à m'en mêler, c'est pas mon histoire. Il nous est arrivé quelquefois de ne pas vouloir prendre des positions parce qu'elles nous mettaient mal à l'aise. Position par rapport à la société, position par rapport au monde qui nous entoure parce qu'on n'a pas envie d'être mal jugé, on n'a pas envie d'être mal noté. Après, il est une question de vérité et de droiture aussi. Il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, jusqu'où peut-on aller en se taisant, en ne disant rien ? Jusqu'où peut-on aller ? Il y a des vérités qu'il faut défendre, certainement. Et on comprend que, parce que vous avez vu que non seulement il défend le roi, mais après, quand le roi fait passer une loi, et que cette loi disait « partout où passera Aman, c'est mon numéro 2 », je ne sais pas comment il lui a tourné la tête au roi, mais visiblement, cet Aman a été un homme particulier, peut-être, je ne sais pas moi, manipulateur. En tous les cas, il a séduit un séducteur incroyable, il a séduit le roi, de telle sorte que le roi a élevé son siège, le siège de cet homme, au-dessus de tous ses grands. C'est très bizarre. Il a créé un poste qui n'existait pas, juste en dessous de lui et bien au-dessus des autres. Et cet homme Aman, on le voit, gonflé d'orgueil, de prétention, de vanité, peut-être un peu mégalomane, allez savoir. Le fait est que il était question que partout où passait Aman, tout le monde devait se courber. C'est un ordre du roi. Seulement à cet ordre-là, Mardoché ne répond pas. Autant d'un côté, il sauve la vie du roi, donc il honore le roi, il obéit au roi. Autant d'un autre côté, il n'est pas d'accord avec cet ordre, donc il n'obéit pas. C'est paradoxal, hein, quand même. Mais on le comprend. Parce que Mardoché, et là, c'est l'effet fenêtre, si vous voulez. Grâce à Mardoché, on peut voir un peu plus loin que la seule attitude de cet homme. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cet homme, tout simplement, a compris qu'il fallait respecter le roi. Certainement, il fallait respecter l'autorité, il fallait même défendre l'autorité, c'est une réalité pour lui, sauf qu'il n'a peur de personne, mais il respecte et il craint, entre guillemets, Dieu également. Et face à toutes les autorités de la terre, il y a une autorité qui est au-dessus, c'est celle de Dieu. Et quelque part, en devant se courber, en apportant l'hommage à cet homme Aman, pour lui, c'était une forme d'idolâtrie. C'est comme si, au lieu d'adorer Dieu, il se mettait à adorer des hommes. Et contre cela, par rapport à cela, il est très clair dans sa tête. Et il a refusé. Il a dit « ça jamais, ça jamais ». Alors on a mis la pression, vous avez vu. Hein, on est quand même venu vers lui, on a mis la pression. Ben c'est pas grave, hein, il résiste. Malgré toutes les pressions. Frères et sœurs, j'aimerais que cet effet fenêtre puisse nous interpeller et qu'on puisse regarder de quelle manière des croyants se défendent dans un monde qui est de moins en moins attaché à la foi, de moins en moins tourné vers Dieu, évidemment. On voit bien que les choses, les pires, les pires abominations, immoralités que vous voulez, elles sont rendues au rang du raisonnable aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a des choses que l'on peut accepter, d'autres qui auront du mal à passer, et puis d'autres qu'on ne peut pas du tout avaler. Il y a des choses qui sont impossibles. On ne peut pas faire avec. On ne peut pas dire, mais ce n'est pas grave, je me tiens au-dessus de la mêlée. Non, à un moment donné, il faut prendre position. Et il va montrer ce qu'est un cœur droit. Il a un cœur droit. Frères et sœurs, préservons notre cœur plus que toute autre chose. Et que notre cœur soit droit. On ne va pas le corrompre en disant bon, « c'est une mauvaise parole, ce sont des mauvais mots, c'est une mauvaise ambiance, c'est, je sais, pas l'endroit où je devrais être, mais ce n'est pas grave, après tout, je ne fais que passer. » Non, non, non. Il y a des moments, il y a des endroits où il y a des postures que l'on ne peut pas avoir, on ne peut pas se courber comme ça devant un homme, ce n'est pas possible. Eh bien, Mardochée nous montre jusqu'où il est capable d'aller, vers quoi il va tendre. Et lui, il va rester intègre vis-à-vis de Dieu. Ça va lui coûter cher, hein ? Parce qu'Aman ne va même pas lui en vouloir, enfin mettre la main sur lui, mais il va décider le génocide pour tous ceux de sa race. Vous imaginez quand même, ça va loin, hein ? J'imagine qu'une fois qu'on a édicté cette loi, ça a dû être un coup mortel pour cet homme, de se dire « c'est à cause de moi ». Dites, c'est quand même à cause de lui, non ? Non ? S'il avait dit « Bon, Aman, d'accord, allez, tu veux que je me courbe devant toi ? Moi, j'y crois pas, t'es qu'un homme, tu mourras, tu retourneras à la poussière comme tout le monde. Allez, regarde, je te fais une belle révérence. T'es content ?» Il aurait été content. Hein. Et le peuple n'était pas massacré. Hein. Imaginez dans quel état vous retrouvez Mardochée quelques moments après ça. Parce qu'il dit « Moi, je résiste, personne ne me fera changer d'avis, il a raison. Il a un cœur droit et Dieu honore celui qui l'honore. » Ben, tout de suite derrière, ça a été... La tempête, ça a été le typhon, ça a été l'ouragan, tout ce qui est arrivé derrière. Mais Mardochée, c'est un homme qui est entier. C'est un homme qui est entier. Il respecte, il défend l'autorité, mais il respecte et il honore Dieu aussi. Alors comme c'est un homme entier, au chapitre 4, quand on l'a lu ensemble, Aman a décidé de massacrer tout le peuple... Le roi va mettre son sceau et il va dire « Aman, rien n'est trop beau pour toi, tu le veux, pas de problème. » Il a mis le sceau et on a envoyé les lettres de partout. J'imagine qu'on a placardé ça sur les murs. Et en fait, il y avait un jour déterminé et il était dit dans la lettre « Lorsque arrivera telle date, vous sortez avec vos armes et vous massacrez tous les juifs que vous rencontrez. » Et il était précisé que les juifs n'avaient même pas le droit de se défendre. C'était pas que l'armée, c'était tout le monde, c'est-à-dire les voisins, tout le monde avait le droit d'y aller, et personne ne serait accusé de crime, personne ne serait jeté en prison, c'est comme ça. On va se débarrasser d'un peuple qui, au dire d'Aman, était une verrue, une vermine au sein de l'Empire, on va l'éliminer. Mais quand Aman... dit cela. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une forme de spoliation, d'ailleurs. On a connu ça avec la guerre aussi. Parce que je veux quand même vous le lire. Il nous est dit que pour faire passer la pilule au roi, il va dire ceci. « Si le roi le trouve bon, je vous remets dans le contexte, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. » Soit dit en passant, il n'y en a qu'une, que l'on sache, à laquelle un seul homme n'obéit pas, c'est celle où il fallait se courber devant Aman. C'est la seule. Mais lui, il généralise. Hein. Il généralise. Ça a de quoi faire peur au roi, évidemment. Il cherche la stabilité de son empire. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 10 000 talents d'argent, c'est colossal. C'est colossal, c'est des millions d'euros. Des millions d'euros. On va les prendre où, ces millions d'euros ? À votre avis ? Certainement. Une fois qu'on les aura massacrés, on prendra les œuvres d'art, la vaisselle en argent ou en or, tout ce que vous voulez, bref. On dépouillera. Et le roi se dit, 10 000 talents d'argent, c'est intéressant quand même. Hein. Ça peut faire un bon pactole quand même. Ben, pas de problème, vas-y, le peuple est à toi, tu fais ce que tu veux. Vous vous rendez compte ? Ça fait froid dans le dos quand même. Mardoché, écoutez donc, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Et là, Mardoché va tout expliquer à Esther. Un homme droit qui a été jusqu'au bout, mais l'effet boomerang, ce qui lui revient est terrible. Eh bien, c'est un homme entier. C'est un homme qui est totalement entier. Alors il va passer soudainement de l'ombre à la lumière. Vous avez remarqué que c'est un homme de l'ombre. Hein ? On n'en entend pas beaucoup parler, à part dans le rapport que l'on a. Mais qui sait, qui est Mardoché par rapport à Esther ? Peut-être pas grand monde. Hein ? Peut-être que dans le palais, on ne sait même pas. Mais quand Mardoché vient se planter devant le palais avec sa cendre, avec son sac, à hurler, à crier son amertume, sa colère, à pleurer, tout ça, c'est la honte. Et on rapporte l'événement à Esther en disant, dis, ton cousin, il est pris de folie, là, il est en train de faire quelque chose. Et elle, tout de suite, elle essaie de calmer le jeu. On n'a pas l'habitude de voir Mardoché comme ça, parce que Mardoché, c'est un homme sage. Mardoché, c'est un homme intelligent. C'est pas quelqu'un qui se livre comme cela. On n'a pas l'habitude de le voir s'extérioriser de la sorte. Qu'est-ce qui t'arrive, Mardoché ? Alors, elle envoie un de ses serviteurs pour le couvrir de vêtements en disant, bon, calme-toi. Et il ne veut pas se calmer, hein, parce qu'il y a un vrai problème. Finalement, on pensait que l'intelligence, son attitude, l'éloignerait d'actes aussi maladroits. Hein. Esther se dit, mais tu es en train de ruiner ma carrière, là. Si le roi apprend qu'on a un lien de parenté, c'est fini, moi j'existe plus. Mais Mardoché voit plus loin, l'effet fenêtre, il voit plus loin. Il ne faut pas qu'on se taise, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et finalement, c'est une image également qu'il veut renvoyer, parce que c'est un miroir aussi qui va refléter cette image. Et Esther voudrait l'éliminer rapidement, cette image-là. « Non, non, ce miroir, je n'en veux pas. Tu fais quelque chose de totalement insensé. Habille-toi. Je ne veux pas revoir cette image de toi. Si, il faut que tu la vois. Et il faut qu'après avoir bien regardé le miroir, tu regardes au travers de la fenêtre ce qui est en train de se jouer dans pas longtemps. Il faut que tu le vois. Elle a besoin d'être éclairée. Hein. » Et Mardoché va jouer son rôle dans ce domaine-là. C'est aussi dans cet esprit-là qu'il nous faut sonner de la trompette, frères et sœurs. Le monde va de pire en pire. Hein. Je ne suis pas convaincu qu'il va s'arranger. Hein. Même s'il y a des temps de mou, ou des temps où ça se calmera, on va de pire en pire vers un monde qui s'endurcit de plus en plus. Une seule réponse, sonner de la trompette, l'Évangile donne la liberté. C'est la seule réponse. Vous devez réfléchir cette image-là, renvoyer ce message-là. Ce message, même s'il est inaudible pour beaucoup, a besoin d'être entendu encore. Et à cet instant, quand l'insistance de Mardoché doit l'interpeller, Esther, à cet instant, c'est plus le miroir, mais c'est la fenêtre. Ce qui se joue, c'est la survie d'un peuple. Ce qui se joue, c'est la gloire de Dieu. Il faut que Dieu se révèle. Ça le dépasse complètement, à l'évidence, hein. Mais il croit à la providence de Dieu. Il croit à la providence. Providence. Providere. Voir avant. Et lui, il voit avant que Dieu peut délivrer le peuple du massacre qui arrive bientôt. Il le voit. Il est persuadé que Dieu peut faire quelque chose. D'ailleurs, il va le dire à Esther. Quand il explique tout ce qui arrive à Esther, Esther dit « Mais je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. » La réponse de Mardoché est très claire. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et je dis « Amen ». Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci ? Finalement, oui, c'est pour un temps comme celui-ci, octobre 2015, que nous sommes vivants et que nous sommes croyants. Vous ne croyez pas ? C'est pour un temps comme celui-ci. Et n'imaginez pas que vous êtes trompé de siècle. N'imaginez pas que vous auriez dû vivre au siècle des Lumières ou au Moyen-Âge ou... je ne sais pas à quelle époque, ou dans 5 ans, ou dans 250 ans, si vous êtes vivant aujourd'hui et si vous êtes croyant, c'est pour un temps comme celui-ci. Et parce que c'est raide, et parce que c'est dur, et parce que c'est compliqué, c'est quand même pour ça que vous êtes là. C'est pour sonner de la trompette. Et c'est pour dire aux gens qui meurent que bientôt arrive le jugement, mais que la grâce de Dieu se manifeste encore. Et que bientôt vient aussi le secours de Dieu. Alors, Mardoché est très clair, il a été paternel avec elle, mais cette fois-ci, il est très raide apparemment. Il lui dit, écoute Esther, tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de te dire. Si tu n'interviens pas auprès du roi, Dieu interviendra. Mais toi, tu n'auras pas été fidèle, tu n'auras pas été droite, tu n'auras pas été entière, Dieu te jugera, tu perdras ta vie quand même. Et quand bien même Dieu n'intervient pas comme on l'imagine, parce qu'après tout, Dieu intervient de deux façons. Soit il élimine votre adversaire, soit il vous élimine de devant votre adversaire. Soit il fait mourir l'adversaire, soit il vous fait mourir et vous n'avez plus d'adversaire. Eh oui, c'est les deux seuls moyens. Donc de toute façon, pour Mardoché, la délivrance vient. Mais après, comment Dieu te jugera? Comment Dieu verra ta vie? Comment Dieu jugera tes prises de position? Il renvoie un miroir à nouveau vers Esther en lui disant « Regarde ce que j'ai fait ». Je pourrais m'en vouloir en disant que c'est à cause de moi que le peuple va être massacré, mais j'ai voulu plaire à Dieu. Et Dieu honore celui qui l'honore. Alors il faut que tu le fasses toi aussi. La conclusion, et j'en viendrai à cela, si vous êtes vivant, si vous êtes croyant, ça veut dire que vous êtes fenêtre et miroir à la fois, les deux tout à la fois. La conclusion, c'est que tout ce que vous avez fait pour Dieu contribue à ses plans, dans la mesure où vous avez cherché sa gloire, dans la mesure où vous avez cherché sa bénédiction. Et finalement, Mardoché n'a rien demandé, humainement parlant. Vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand il a déjoué un complot contre le roi, il a été récompensé? Non. On n'a rien fait pour lui. Rien. C'est bizarre, hein? Alors, l'histoire est en train de s'emboîter de façon miraculeuse. Quand Esther, jeune et prie, elle décide d'aller finalement parler au roi. Alors elle va aller vers le roi et elle va lui dire « J'organise un festin, j'aimerais que tu viennes et j'aimerais que Aman vienne aussi au festin. » D'accord, pas de problème, on vient. Et ils vont se retrouver au festin ensemble et le roi va lui dire « Demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, tu l'obtiendras. » Et elle dit « Écoute, si j'ai trouvé grâce, j'ai encore une demande et je voudrais que tu la satisfasses. » Que tu viennes au festin encore, je vais préparer ça demain. Alors Aman est tout content, il a le cœur réjoui, etc. Et pendant la nuit, il se passe quelque chose d'étonnant. Le roi est pris d'insomnie. Je ne sais pas si ça lui arrivait fréquemment, mais il n'arrive pas à dormir. Alors comme ça l'agace, il a regardé d'abord sur la télé, toutes les chaînes, il a zappé, il n'y avait rien. Donc il a demandé qu'on aille chercher un petit peu les archives, qu'on lui lise un petit peu des histoires de son peuple, des générations passées, etc. Et donc on va lire les annales et on va revenir sur l'événement de Mardoché. Et tout à coup il prend conscience de ce qui s'est joué. Il dit « Mais au fait, ce Mardoché, on a fait quelque chose pour lui ? Ah non, on n'a rien fait. Ah mais c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. » Le lendemain matin... Vous vous souvenez quand la femme d'Aman lui a dit « Va demander au roi qu'on pende Mardoché. » Quand Aman vient pour demander qu'on pende Mardoché, le roi voit arriver Aman en lui disant « Hé, écoute, j'ai pas bien dormi cette nuit. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour quelqu'un que le roi voudrait honorer ?» Et lui, il est dans sa bulle, il est dans son monde. Il est persuadé qu'on parle de lui. dit, ah, il faudrait sortir le cheval, prendre le beau vêtement, traverser toute la ville, et que des gens crient devant lui, regardez ce que le roi a fait à quelqu'un qu'il veut honorer, etc. Et le roi dit, mais ça, c'est une excellente idée. Alors écoute, je voudrais que tu fasses exactement ce que tu as dit pour Mardoché. Et il va être obligé de le faire. Alors, non seulement il n'a pas demandé la tête de Mardoché, mais en plus, on s'est payé sa tête parce que c'est lui qui a dû le promener dans toute la ville. Il est rentré chez lui, il était défait. Et vous avez vu sa femme, s'il est de la race des Juifs, si c'est un croyant, et si son Dieu combat pour lui, si tu as commencé à tomber devant lui, tu vas tomber jusqu'au bout. Le soir arrive le festin, et la reine dit, voilà mon peuple est voué à la destruction. Quel peuple ? Juif, tu es juive ? Oui, je suis juif, je suis juive. Mais qui a pu ordonner un tel acte ? C'est pas possible. Et là, elle dit, ben, c'est lui, c'est Aman. Le roi est dans une colère vexée, dans une colère, il quitte la pièce. Aman comprend que son sort est réglé. Alors il va vers la reine Esther, il lui supplie, vous imaginez, il lui supplie de lui faire grâce. Et le roi rentre et il voit cet homme près d'Esther, il dit encore, tu vas violenter la reine ? Immédiatement, on met un sac sur la tête de cet homme et on va le pendre. Au même bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Ça a été vite réglé. Hein. Sauf qu'on ne pouvait pas changer les lois. Donc le massacre arrivait. Et le roi a eu une idée. Il a dit, je vais édicter une autre loi. Et sur cette autre loi, on va prévenir les Juifs de la date, de l'heure, etc. Et on va leur dire qu'ils ont le droit de se défendre. Et qu'on ne les jugera pas s'ils se défendent. Alors ça a été terrible. Hein. Mais ils ont pu se défendre. Et ça a été une grande victoire. Et aujourd'hui, en Israël, on fête les Pourim. Et on se souviendra que c'est à cette époque-là qu'on s'est envoyé des gâteaux, on a célébré la victoire que Dieu avait donnée. Cet homme est sorti de l'ombre d'une manière incroyable. Il n'avait pas cherché la lumière. Mais quand vous êtes un miroir, vous reflétez la lumière un jour ou l'autre. Et quand vous êtes une fenêtre, vous laissez passer la lumière. Et c'est exactement ce qu'il a été. Et ça a été une bénédiction. Il n'a rien demandé humainement, mais il avait compris, me semble-t-il, le mot « héritage ». Et il avait compris le devoir qui y était attaché. Il devait transmettre cela. Il a transmis ça à Esther. Il a fait comme il a pu. Il a fait du mieux qu'il a pu. Il a été jusqu'au bout où il pouvait aller. Et ça a été le choix de Dieu, une victoire extraordinaire. J'ai choisi ces deux textes. Vous les connaissez. On ne va pas les sortir de leur contexte, mais ils s'adaptent à la vie de tous les jours. Quoi que vous fassiez, frères et sœurs. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour glorifier Dieu et non pas glorifier le monde et non pas servir la terre, mais servir Dieu. Soyez à la fois fenêtre et miroir comme l'a été Mardoché. Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Seigneur, je veux te dire merci pour... cette année 2015, je veux te dire merci parce que nous vivons à une époque où autour de nous, les besoins grandissent. Et si les besoins grandissent, je crois que tu nous as donné également la possibilité de voir au-delà de du désespoir et des difficultés qui nous entourent. Et tu veux nous donner les moyens de te glorifier, les moyens de te servir. Je prie que tu agisses, je prie que tu manifestes ta gloire, je prie que tu te serves de nous encore, s'il te plaît. Nous sommes certainement là encore confrontés à des difficultés, on n'a pas la solution, mais toi tu l'as. Je ne veux pas et nous ne voudrions pas nous attacher et nous affliger que pour les biens matériels, les choses de la terre. Mais nous voulons être sensibles et affectés par les biens spirituels et ce qui touche au ciel et au salut et à la perdition. Seigneur, permets-nous de t'être utile. Permets-nous de te servir. Permets-nous de te glorifier. Permets-nous d'être un instrument entre tes mains. Merci pour Mardoché qui, bien involontairement, est apparu à la lumière, mais il a fait ce qu'il devait. C'était un homme attentionné et nous devons l'être pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu, pour nos frères et sœurs. C'était un homme droit, c'était un homme entier, c'était un homme ferme, c'était un homme intelligent, sage. Mais tout cela lui venait de toi. Et merci.